Dun dun da dun, dun dun da dun, dun dun da dun, dun dun da dun, dun dun da dun. L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.
Bienvenue dans cette édition de L'un dans l'autre, le magazine d'information locale de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Flavie, stagiaire à Radio B, qui a participé à la réalisation de cette émission. Bonjour, bonjour Flavie.
Bonjour Perrine, bonjour Elsa et bonjour tout le monde.
L'accès aux soins est très problématique dans l'Ain comme dans la plupart des régions de France. L'Ain est le 15e département le plus démuni de professionnels de santé. Il y a environ 6,4 médecins généralistes pour 10 000 habitants, alors que la moyenne nationale s'établit à 8,7. Conséquence, des difficultés accrues d'accès aux soins, des délais de rendez-vous de plus en plus longs et un alourdissement de la fréquentation des services d'urgence. Les perspectives pour les prochaines années ne sont pas réjouissantes, compte tenu des départs en retraite prévisibles, alors que la population du département augmente de 6 000 nouveaux habitants par an. C'est un sujet qui touche tout le monde et qui reste préoccupant.
D'ailleurs, je suis allée à la rencontre des Burgiens pour connaître votre avis sur l'accès aux soins. Comment vous soignez-vous ?
Très souvent par moi-même, mais bon, il faut savoir que je suis en très bonne santé, donc je ne suis pas malade.
Oh, ben moi pauvre, je prends des médicaments, je vais voir le docteur.
En général, c'est chez le médecin, mais vu qu'en ce moment, c'est galère pour trouver un rendez-vous tout de suite, donc on soigne comme on peut, à la pharmacie, tout ça.
En faisant attention à mon hygiène de vie.
Le plus naturellement possible.
Est-ce que vous avez un médecin traitant ?
Oui, mais pas pour longtemps, parce qu'il a 73 ans, il continue encore parce qu'on ne trouve pas de médecin, enfin voilà, il n'y aura plus de médecin.
Tout à fait, que j'ai depuis des années et que je lâche surtout pas.
Oui, j'en ai un, mais il est complet à chaque fois.
Alors, moi, je suis moi-même médecin, alors je suis un peu aidée, on va dire, voilà. Mais oui, après, je constate que beaucoup de personnes ont surtout beaucoup de difficultés à trouver un médecin traitant.
Pas assez de médecins traitants qui souhaitent nous prendre quand notre médecin traitant ne peut pas. Donc la demande de nouveau de rendez-vous, c'est un peu plus difficile.
C'est très long à voir, c'est très long pour avoir des rendez-vous, comme quand on appelle chez les cardiologues, des jours on ne peut pas appeler parce que voilà quoi.
Oui, pour les yeux. Les ophtalmos, les kinés, enfin tout ce qui est un petit peu spécialité, c'est le désert, c'est la cata.
Oui, pour le dentiste, je mets plus d'un an pour avoir des rendez-vous. Hein. J'ai fait tout ce devoir, impossible d'avoir un rendez-vous.
Est-ce que vous avez déjà eu recours aux nouveaux moyens d'accès aux soins? Je pense notamment aux consultations en ligne.
Non, on n'a ni internet, ni non, téléphone non, portable, voilà, nous c'est... Vieille France.
C'est un petit peu... C'est pas scandaleux, mais on va déshumaniser les gens avec ce système-là. Il n'y aura pas de médecin, il n'y aura pas de contact, en fait.
Ça peut être des solutions, je pense, plus ponctuelles, mais je pense que la totalité d'un suivi se fait difficilement à distance.
Je n'ai pas Internet, moi, déjà. Alors, donc, c'est ma chère, là, moi, non. C'est pas mon genre. Moi, il faut que je sois contact humain.
Quelles seraient, selon vous, justement, les solutions pour être mieux soigné, en fait?
Alors, les solutions, c'est peut-être la médecine alternative.
Eh bien, développer les cabinets mutualisés, déjà. Et puis, l'agglomération veut ouvrir un cabinet comme ça et qu'en fait, ils ne trouvent pas de médecin. Il n'y a pas assez de médecins en France.
Les internes sont surtout gardés dans les grandes villes, dans les grands centres universitaires et bien moins dans les centres périphériques. Il y a un effort à faire au niveau des politiques de santé sur les stages des étudiants en médecine.
Pour mieux comprendre les enjeux du secteur de la santé, mais aussi pour repenser l'accès aux soins, nous avons reçu Céline Lebihan, médecin généraliste à Bourg-en-Bresse. Elle a publié un essai, Haut les corps, elle nous en parle en deuxième partie d'émission.
Mais tout de suite, l'actu en bref. L'un dans l'autre, les brèves. Conférence, pourquoi on ne passe pas à l'action ?
Face aux défis environnementaux, le syndicat Ressous et Affluents organise vendredi 14 juin à 19h à l'amphithéorium du Conservatoire d'agglomération de Bourg-en-Bresse une conférence gratuite. Centrée sur les sciences comportementales au secours de la transition écologique, elle sera suivie d'un temps d'échange. Il s'agit de mieux cerner et dépasser l'inaction face à la transition écologique à travers l'expertise de Nicolas Fiolaine, chercheur en psychologie sociale.
Inscription conseillée.
Radio B, les bonnes ondes.
10e anniversaire pour la Maison des adolescents.
La MDA garantit depuis son ouverture accueil, écoute et orientation des jeunes entre 12 et 20 ans et de leurs familles. Au-delà de l'anniversaire, le moment, aux côtés des partenaires, se veut réflexif sur les accomplis, mais également sur les perspectives en continuant à stimuler culture et créativité. Alors rendez-vous pour une rencontre conviviale et créative, jeudi 13 juin, à l'Amphithéorium de Bourg-en-Bresse, Esplanade François Mitterrand.
La ferme du Sougeet se met au vert.
Samedi 15 juin se déroule sur le site à partir de 10h la première édition du Festival du Printemps des Arbres. Diverses animations et ateliers gratuits faisant appel au sens sont attendus afin de comprendre et protéger davantage la forêt. Comme point d'orgue du festival, Geneviève, ethnobotaniste, directrice de recherche à l'IRD et photographe d'art vous invitera à repenser votre rapport aux arbres à travers deux temps forts. À 18h30, retrouvez le vernissage de son exposition « Être forêt ». Puis, à 20h, Geneviève animera la conférence débat « Le recours à la forêt, une nouvelle façon d'habiter le monde ».
Il est conseillé de vous inscrire. L'un dans l'autre, l'interview.
Face à la démographie médicale alarmante et à la crise du secteur de santé, Céline Le Bihan, médecin généraliste de Bourg-en-Bresse, propose des solutions et des idées dans un essai qu'elle vient de publier sous le titre « Haut les corps » aux éditions Vérone. Elle propose une réflexion personnelle et originale, appelée peut-être à faire grincer pas mal de dents, mais qui a le mérite de ne pas céder à la langue de bois. Elle a accepté notre invitation pour répondre à nos questions et nous raconte comment lui est venue l'idée d'écrire cet essai.
C'est un long cheminement, parce qu'en fait, moi, je m'intéresse à l'accès aux soins depuis mon installation. On a ouvert le cabinet il y a 10 ans maintenant, et moi, je me suis installée tout de suite dans la foulée de la thèse. Et l'objectif était, dès le départ, d'essayer d'améliorer l'accès aux soins, en tout cas, d'essayer de tout faire pour pouvoir proposer un accès aux soins un peu optimisé pour les gens de Bourg. Donc c'est des réflexions qui existent depuis 10 ans. Et puis j'ai été sensibilisée dès mon stage d'interne, la dernière année de mes études, parce que j'étais chez des maîtres de stage qui étaient inscrits dans des démarches sur la réflexion, sur l'amélioration de l'accès aux soins. Et j'ai pu participer à une étude qui relevait un petit peu les besoins et les attentes de tous les gens du territoire, un travail qui avait été fait qui était énorme. Et moi j'étais interrogée dans le rôle du jeune médecin, en fait, qui va s'installer sur le territoire. Et je trouvais que ce qui était proposé ou les réflexions qui étaient menées étaient vraiment déconnectées, en fait, de mes vrais besoins. Et donc, ça m'a incité à me pencher sur le sujet. Et puis, en 10 ans d'exercice, l'accès aux soins n'a vraiment fait que se dégrader. Et donc, c'est une réflexion quotidienne, parce que quotidiennement, même mes patients qui ont un médecin traitant, puisqu'ils sont dans mon cabinet, ils ont des difficultés, que ce soit pour accéder aux soins de second recours, à l'hôpital, aux spécialistes, même aux paramédicaux. Évidemment, en cas d'urgence, parfois je peux les aider, parfois pas. Et donc, c'est une réflexion absolument permanente. Et le déclencheur, ça a été une petite phrase lancée comme ça dans une conversation téléphonique avec mon père, où il m'a sorti une bêtise. Et ça m'a beaucoup énervée. Et donc je lui ai prouvé par A plus B plus C que ce qu'il disait c'était vraiment une bêtise. Et il m'a dit, bah écoute, si t'expliques les choses comme ça, peut-être que les gens vont comprendre et tu devrais écrire un livre. Donc je lui ai dit, certainement pas, c'est débile comme idée. Et le lendemain, je me suis mise à écrire.
Écrire et expliquer le monde de la santé, l'accès de plus en plus difficile aux soins, notamment dans l'Ain ces dernières années. Pour Céline Le Bihan, quelles en seraient les causes ?
En fait, il n'y a pas de médecins dans la région parce qu'il n'y en a pas assez en France de toute façon. Donc les difficultés, elles sont ici, mais elles sont absolument partout sur le territoire. Le deuxième facteur important, c'est que ici, on est très très loin de la faculté. Donc on est très loin des lieux de production de médecins. On n'a pas de production en localité. Et donc, c'est pas très facile de faire venir un médecin qui est installé dans la vie, qui a un conjoint, qui a une vie sociale, une vie familiale, parfois un achat de biens immobiliers et qui a passé 10 ans en région lyonnaise. Donc, il faut vraiment qu'ils aient une motivation la plupart du temps personnelle à venir dans la région et donc des projets de vie ou des projets professionnels qui sont personnels. Et puis, on voit bien que même en travaillant beaucoup à l'attractivité, en faisant venir des étudiants, tout ça, on est un endroit particulier ici où on a des problématiques urbaines avec des populations qui sont complexes, où il y a du grand âge, il y a de la précarité, il y a des familles jeunes, il y a des problématiques d'addiction, des problématiques psychiatriques complexes. Et donc, pour un jeune médecin qui vient s'installer, l'exercice semi-rural est finalement potentiellement plus attractif parce que le bassin de vie est un peu différent et les besoins de santé de la population sont différents. Donc venir ici, c'est d'emblée venir dans un endroit où on va être contraint en termes de charge de travail et avec une qualité de travail qui est du coup impactée par le fait qu'il n'y ait pas assez d'acteurs, tout simplement pas assez de bras.
Ce serait ça pour vous la définition d'un désert médical ? Si on se dit que l'un c'est un désert médical, comment on définit ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, oui, cette expression. Oui. Pour vous, ce serait quoi ?
En fait, il y a des définitions nationales, si j'ai envie de dire, mais c'est extrêmement difficile à pouvoir mesurer parce que si on prend un critère géographique en disant, bah, par exemple, je suis au milieu de la Creuse, par exemple, et j'ai pas de médecin à moins de 20 km, je suis dans un désert médical, cette distance-là de 20 km a absolument pas la même signification à Paris ou à Lyon. Et nous, à Bourg, par exemple, on a des médecins qui sont inscrits sur l'annuaire, qui sont dans la ville, et pour autant, ils sont pas accessibles parce qu'ils sont complets. Donc la distance, c'est pas un bon reflet. Le plus simple, en fait, c'est de questionner les gens et de leur demander s'ils ont des difficultés d'accès aux soins. Et donc, il y a des organismes comme l'ADRES qui font ça. Et quand on relève les chiffres qu'ils trouvent, quand ils font des enquêtes, eh ben, en fait, c'est pratiquement 3/4 des Français qui ont des difficultés d'accès aux soins.
Et justement, en parlant chiffres, combien il faudrait de médecins par habitant ?
Je pense que c'est impossible de répondre parce que tout dépend de quels soins la population a besoin. Ça dépend de quels soins la population a envie et ça dépend de comment est-ce qu'on est organisé pour y répondre. Les besoins, il y a des besoins qui sont intangibles. Quand on a un cancer, on a besoin de se soigner et c'est intangible. Il y a les soins dont on a envie. Alors ça, c'est tous les soins sur lesquels on a des leviers d'action. Par exemple, signer le certificat de boxe et pas le certificat de gym au même moment avec la même consultation, ça consomme du soin. Et pour autant, c'est des choses qu'on peut faire varier. On peut supprimer ce besoin-là et donc libérer de l'accès aux soins pratiquement d'un claquement de doigts. Et puis, il y a la façon dont on est organisé pour y répondre. C'est-à-dire que pour prendre en charge le même problème de santé, on peut avoir besoin de professionnels complètement différents. Par exemple, un patient diabétique, il peut être soigné par un professeur dans un centre hospitalo-universitaire, par un endocrinologue en ville, par un médecin généraliste, par une IPA, une infirmière en pratique avancée, par une infirmière de santé publique. Et donc, il peut avoir une consommation de soins, en tout cas des besoins de soins, complètement différents. Donc, on peut fonctionner à l'économie et on peut vraiment fonctionner de manière structurée pour centrer la consommation de santé sur le strict minimum.
Pour en revenir à votre quotidien, comment on fait pour le réorganiser aussi, pour gérer son planning, ses rendez-vous ? Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de votre cabinet ?
Oui, je crois que cette question, on n'y répond jamais parce qu'on est sans arrêt en train de se réinventer et en train de chercher des trucs et des astuces pour pouvoir optimiser notre disponibilité. Nous, on a fait le choix de travailler, d'inventer plutôt le métier d'assistante médicale en 2013. Et puis, on a travaillé depuis toujours aussi avec des infirmières de santé publique qui fournissent des soins et de l'éducation thérapeutique pour les patients porteurs de pathologies chroniques. On travaille avec des secrétaires qui font un travail absolument extraordinaire. On a eu beaucoup d'internes. Maintenant, on travaille avec des infirmières de pratique avancée. Ça veut dire que la façon dont on s'organise au quotidien, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens aient accès aux soins dont ils ont besoin par l'acteur qui est le plus disponible et le plus qualifié. Ça peut être le médecin ou quelqu'un d'autre. Mais cette réponse, elle a pas de fin. Cette question, elle a pas de fin parce que le médecin traitant, c'est le couteau suisse de la médecine. Ça veut dire que on est là pour pallier à n'importe quel problème de santé non différencié. Et donc, toutes les demandes des gens nous arrivent dessus et nous, on est quand même un peu une gare de triage. Et on a toujours cette question de se dire comment est-ce qu'on fait pour que la gare de triage soit pas embolisée et pour que les choses puissent être le plus optimal possible. Je crois qu'on arrive quand même à un moment, ici sur le territoire, où de toute façon on n'est pas assez nombreux quoi qu'il arrive. Et donc même en étant complètement structuré, il manque des bras.
Alors comment on fait avec ce sentiment de journée qui n'en finisse pas? Quel retour peut-être de vos confrères, consoeurs? Est-ce que vous ressentez une lassitude? Est-ce que vous en parlez entre vous?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de... avec les confrères avec lesquels j'ai la chance de pouvoir échanger, il y a énormément de lassitude. Et puis aussi, une espèce de sentiment de tonneau des Danaïdes, quoi, qui se remplit jamais et que la charge de travail est infinie. Et qu'à la fin de la journée, il en faudrait une deuxième, et qu'à la fin de la semaine, il faudrait continuer à travailler le week-end, et qu'en fait, on n'arrive jamais à ce qu'à la fin de la journée, on ait répondu à tous nos patients, ça n'arrive jamais. Ce sentiment de charge de travail qui ne s'arrête jamais, c'est source de beaucoup de souffrance pour les professionnels. C'est valable pour les médecins, mais c'est valable pour beaucoup d'autres professions. Et cette souffrance-là, je trouve qu'elle est vraiment problématique parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on ferme la porte du cabinet et qu'on arrête de répondre, qu'on arrête de lire le message et qu'au bout du compte, le patient, il est tout seul. Et puis c'est aussi cette souffrance-là qui fait qu'à un moment donné, on va répondre de manière un peu brusque ou pas très adaptée à une vraie angoisse ou un vrai questionnement du patient qu'on va considérer comme pas grave. Et donc au final... Cette souffrance-là, je pense qu'il faut vraiment la prendre en compte parce que c'est les patients qui se font claquer des portes au nez.
Vous évoquez tout à l'heure quelques premières solutions, peut-être déléguer certaines consultations, certaines attestations. C'est quoi les autres solutions? C'est les plateformes de réservation en ligne? C'est les centres médicaux de soins immédiats? Est-ce que ça a une possibilité aussi de se soigner?
C'est très intéressant. Je crois que la délégation de tâches, c'est quelque chose qui est très important parce que le patient, il reste dans un réseau qu'il connaît. Ça veut dire que quand on délègue une action, un entretien thérapeutique, par exemple, à une infirmière qui travaille dans le même cabinet, en fait, on sait ce qui se passe. Ça veut dire qu'on reste en lien avec l'infirmière, on sait ce qu'elle fait et c'est ce que nous, on fait en consultation. Et donc, le patient, il a un discours qui est cohérent en face de lui et un parcours de soins qui est cohérent. La problématique des téléconsultations ou des centres de soins non programmés, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils dépatouillent quand même énormément de situations. Mais la problématique, c'est qu'il y a peu de communication entre le dossier du patient, ses informations, et puis la téléconsultation, la télécabine, le centre de soins non programmés. Et donc, au final, c'est pas très facile pour le médecin qui reçoit le patient qu'il ne connaît pas de vraiment savoir ce qui se passe. Parce que la plupart du temps, on travaille avant avec les gens, on travaille après. Des fois, il leur manque des informations, c'est pas très confortable. Et puis, des fois, les patients, ils renoncent aux soins avant même d'essayer de nous appeler. Et donc, ils se retrouvent dans les centres de soins non programmés alors qu'on aurait pu les prendre en charge. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais le principal problème, c'est que ces centres-là, alors à Bourg c'est un peu différent, mais il y a plein d'endroits, notamment en région lyonnaise, où les centres de soins non programmés, ça devient un endroit attractif pour les médecins qui sortent des études. Et donc, c'est pas du tout la même charge mentale d'aller s'installer dans un centre de soins non programmés où on n'a pas à gérer les soins chroniques, on est la plupart du temps salarié, où on travaille à la vacation, on n'a pas la comptabilité, on n'a pas l'exercice libéral, on n'a pas l'exigence de rentabilité de l'entreprise qu'est le cabinet médical. Et donc, c'est plus facile, tout simplement. Les prises en charge sont déconnectées et vraiment la complexité de la personne prise dans son intégralité est pas abordée de la même manière du tout. Donc, moi, ça m'embête un peu si on prend un peu de recul, si on se dit qu'on n'a pas assez de médecins d'un côté pour réaliser des soins primaires et être le médecin traitant des patients, et que de l'autre côté, une partie des médecins formés vont travailler pour gérer l'urgence qui aurait pu être gérée différemment s'il y avait plus de médecins installés, on a une espèce de vase communicant qui n'a aucun sens en fait.
C'est la question du suivi qu'on pose là, que ce soit du point de vue des médecins ou du point de vue des patients.
Bien sûr.
Qui, j'ai l'impression, demande cet accompagnement aussi.
Bien sûr, c'est la question centrale, parce que même quand il s'agit d'une petite infection urinaire ou d'une petite bronchite, on ne la gère pas pareil si on connaît le patient depuis 5 ans, qu'on sait exactement dans quel cadre de vie il est, dans quel cadre professionnel il est, et quand on ne le connaît pas. Et donc, on sait quelles sont ses contraintes. Moi, je ne vais pas soigner les gens de la même manière s'ils sont routiers, s'ils partent le lundi, qu'ils reviennent le vendredi, ou s'ils sont assistantes maternelles et qu'ils sont au travail de 7h à 20h le soir, en fait. Et donc, cette connaissance du patient, cette confiance aussi qu'ils ont en nous, ça fait qu'en termes de soins, on n'aborde pas les choses de la même manière. On peut parfois se contacter beaucoup plus facilement. Et donc, la confiance qu'ils ont en nous a un impact énorme sur les prescriptions qu'on peut leur faire.
Alors, on voit aussi des villes essayer d'attirer de nouveaux médecins. Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, comment on fait si effectivement on se retrouve élu, on a cette problématique-là? On parlait tout à l'heure que les médecins, comme n'importe quel nouveau habitant, ont des critères plutôt personnels. Voilà, on voit qu'à Bourg-en-Bresse, il y a aussi une première année de médecine qui s'est installée. Mmh. Est-ce que c'est des bonnes initiatives?
Je pense que le fait d'envisager les études en local et qu'on ait notre production locale burgienne de médecins, c'est une excellente idée. Je pense même que dans l'absolu, il faudrait qu'on puisse faire les études de médecine beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus répartie sur le territoire. Bourg, ça suffit pas, il y a Hauteville aussi, il y a Oyonnax, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à produire en localité des médecins dans ces endroits-là. Les élus, je les plains beaucoup et j'aimerais pas être à leur place parce qu'ils ont la pression de la population pour dire il faut faire quelque chose. Alors, faire quelque chose quand on est élu, on le fait avec les moyens qu'on a. Donc, effectivement, il y a la publicité, il y a les cabinets de recrutement, il y a plein de choses, il y a le fait de construire des locaux. Mais faut être très honnête, si on regarde objectivement les critères qui déterminent l'installation d'un médecin, les premiers critères, ils sont personnels. Et les premiers critères, c'est pas les offres d'emploi qu'on peut avoir. En fait, ça, moi j'aime bien cette image-là, la population de manière générale a l'image du jeune médecin comme une petite graine qui vole dans l'air et si on souffle au bon endroit, elle va se poser, s'enraciner et c'est bon, on est tranquille pour 40 ans. Mais en fait, la petite graine, c'est des gens qui ont déjà 30 ans, qui sont installés dans la vie et donc c'est pas des graines, c'est des chênes qui sont enracinés. Et donc, déraciner un chêne, c'est pas tout à fait pareil que de faire voler une petite graine et de la faire implanter dans son territoire. Et si on déracine un chêne, il faut bien être conscient qu'à la place, il y a un trou. Donc si on attire des médecins d'un côté en sachant que de toute façon, il n'y en a pas assez, il faut bien se dire qu'il y a un endroit où il va en manquer.
Est-ce que vous pourriez nous partager votre sentiment quand vous voyez des 4x4, des affiches à l'entrée des villes?
Alors, c'est rigolo. Ça me fait beaucoup sourire. Moi, j'aime bien voyager en France dans des coins très, très reculés. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on voit au bord des routes. Cherche médecin, et on sent bien le désespoir derrière ce cherche médecin. Je ne sais pas si les communes ont conscience de ça, mais en tant que médecin, quand je vois ce genre d'affiche, je me dis, si je m'installe ici, je suis en burn-out dans 3 mois. Et donc, le fait qu'il y ait, qu'on utilise cette communication qui est celle de l'entreprise, à savoir, il y a un marché, allez-y, installez-vous, en fait, je crois que pour beaucoup de médecins, c'est un repoussoir profond.
Je voulais juste revenir sur votre ouvrage. Oui. Est-ce que vous avez eu des retours de vos confrères, consoeurs sur vos propos? À des moments donné, vous dites, voilà, je ne vais pas me faire que des amis, c'est un peu coup de poing.
Bien sûr.
C'est quoi les retours tout de même?
Eh bien, en fait, de manière assez surprenante, ils sont très enthousiastes et j'ai même des confrères qui ont mis le livre dans leur salle d'attente pour le partager avec leurs patients. Quand on commence à dire qu'il faudrait que les médecins soient répartis sur le territoire, on peut craindre, et c'était ma crainte, que la souffrance ressentie, la souffrance professionnelle se transforme en colère. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Je pense qu'à partir du moment où le propos est de dire on assume d'imaginer un territoire français dans lequel il y a des médecins un peu répartis sur le territoire et on se met en ordre de marche pour que ça fonctionne, on en tire des implications derrière, à savoir être honnête avec les étudiants qui rentrent en médecine en disant les choses vont se passer différemment. On ne peut pas changer les règles du jeu, par exemple, pour des gens qui font des études, qui s'engagent pour 10 ans. On ne peut pas leur dire à 8 ans et demi des études, on va vous déplacer comme si vous étiez des pions, c'est pas possible. Donc quand on prend ce point de vue-là de dire, imaginons que la santé, ce soit un service public et qu'on assume que ce soit un service public, et qu'on en tire absolument toutes les conséquences, finalement, ça lève pas tant de colère. Donc les retours des collègues, ils sont vraiment enthousiaste et ça me touche beaucoup. Mais ce qui me touche le plus, c'est les retours des patients.
Mmh. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous vouliez apporter aux patients? Quelle connaissance un peu du monde de la santé?
Eh bien, j'en ai beaucoup qui me disent « Oh là là, je ne m'attendais pas à ça, je ne savais pas que c'était comme ça ». Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que quand ils ont lu le livre, après, je les sens plus puissants. C'est peut-être naïf comme mot, mais je les sens plus armés pour pouvoir dire « oui, non, ça je suis d'accord avec ça, ça je suis pas d'accord ». Moi j'aimerais bien que les choses évoluent dans ce sens-là. Et je trouve que c'est génial parce que c'est comme si on ouvrait une porte vers d'autres choses que ce qui est rabâché à longueur de temps.
Pour donner la possibilité à ses patients...
décider.
Voilà, à ses usagers de décider, de prendre conscience des choses, de donner leur envie.
Exactement. Parce qu'en fait, il y aurait beaucoup de choses à faire à l'échelle nationale, évidemment. Mais moi, je suis absolument persuadée que notre territoire, il est à la bonne échelle pour qu'on puisse aussi faire des choses en localité. Et donc, en localité, on pourrait très bien décider, nous tous, les Burgiens, mis en troupeau autour d'une table, eh ben que les besoins de santé évitables, ceux qui consistent à écrire des papiers qui ne servent pas à grand-chose, on les enlève parce qu'on n'a pas les moyens de faire ça.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire.
Mais il suffit de le décider, en fait. Il suffit qu'à un moment donné, les Burgiens se disent, en fait, ça suffit, nous, on n'a pas accès aux soins, donc on ne peut pas gaspiller du temps de soins pour des bêtises.
Mais une des solutions, c'est peut-être de penser local. On n'est pas obligé de prendre des décisions d'un point de vue national.
Je pense qu'en local, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire aussi énormément de choses, je pense, en termes d'autonomie et de connaissance de son propre corps, tout simplement. C'est-à-dire que, imaginons le code de la route, on apprend le code de la route, et après, si on grille un feu stop, on peut se le faire reprocher. Les médecins, on a souvent tendance à dire « Oh, ils consultent pour rien ». Mais en fait, les patients, ils n'apprennent absolument jamais ce qu'il faut faire avec leur corps. Ils n'apprennent pas ce que c'est qu'un rhume. Moi, je leur en veux pas. Hein. J'ai appris le rhume en 9e année de médecine. Hein. Donc voilà. Les gens n'apprennent pas la gastro, n'apprennent pas le rhume, n'apprennent pas la lombalgie, n'apprennent pas ce qu'il faut faire quand on a mal à l'épaule. Et peut-être qu'en local, sur ce petit territoire qui est le nôtre, mais suffisamment grand pour pouvoir inventer des projets géniaux, on pourrait faire cet apprentissage-là. On pourrait se dire, de toute façon, on va devoir faire sans médecin. Parce qu'on n'en a pas assez. On ne décide pas s'ils viennent ou pas. Et de toute façon, les perspectives ne sont pas très réjouissantes pour les prochaines années. Donc on pourrait très bien décider de faire monter en compétence la population pour la gestion de ses propres soins quotidiens.
D'appréhender plus le monde de la santé, que ce soit par l'apprentissage ou...
Alors, on pourrait inventer plein de choses différentes, mais moi j'aimerais énormément que les gens, ils aient les moyens de leur autonomie minimale en termes de santé. Exactement comme les vieux, ils faisaient un potager, ils avaient leurs tomates, il y a une espèce de début d'autonomie alimentaire en fait. On met des récupérateurs d'eau, comme ça on est sûr de pouvoir arroser ses plantes pendant l'été. Enfin, c'est des choses qui maintenant paraissent presque de bon sens. Eh bien, allons-y, faisons ça aussi pour la santé.
Vous avez écrit un livre, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que vous avez des futurs projets peut-être?
Alors des projets, j'en ai toujours 40 000. Non, j'aimerais vraiment pouvoir diffuser ces idées-là parce que, en termes de projet professionnel, par exemple, on bute en ce moment sur des portes fermées parce qu'il manque un levier d'action pour pouvoir faire des actions qui auraient un impact sur la population burgienne de manière large. Et moi, je suis convaincue que ce levier-là, c'est les usagers du soin. Donc, mon projet actuel, c'est vraiment de pouvoir diffuser et de dire aux gens, en fait, vous avez le pouvoir de changer un certain nombre de choses. Et si on s'y met ensemble, je suis persuadée qu'on peut faire des choses chouettes.
On remercie Céline Le Bihan d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que son essai « Haut les corps » est disponible en librairie.
Radio B, les bonnes ondes.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Flavie, merci Elsa.
Merci à vous.
Merci à toutes les deux. On vous retrouve lundi prochain à 18h pour de nouvelles infos qui vous engagent.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.